Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avant d'analyser causes et réponses aux violences en milieu jeune en France, retrouvons notre invité décryptage en direct.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Bruno Chareron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en physique nucléaire, directeur du laboratoire de la CRIRAD, c'est la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. 10 ans après la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima au Japon, c'était, rappelons-le, le 11 mars 2011, où en sont les autorités japonaises au niveau de la décontamination des terres les plus irradiées ?
Alors, il y a eu énormément d'efforts des autorités japonaises pour justement décontaminer les terres les plus radioactives, en tout cas dans les zones proches des habitations. Le problème, c'est que ça ne résout pas les difficultés, c'est-à-dire que, un, cela a conduit à produire, disons, 17 millions de tonnes de sacs de terre radioactives, dont personne ne sait vraiment comment les garder confinés pendant des dizaines et des dizaines d'années. Deuxièmement, il est pratiquement impossible en réalité de décontaminer parfaitement ne serait-ce qu'une seule maison, parce que pour que la radioactivité dans cette maison redevienne à un niveau normal, il ne suffit pas de décaper la terre immédiatement à côté de la maison, mais il faudrait aussi parfois décaper les sédiments au bord des rivières, décaper tous les arbres de la forêt en face de la maison qui sont contaminés, parce que la contamination qui est toujours déposée sur les sols, sur les arbres, autour de la maison, continue à envoyer des rayonnements, des radiations, des rayonnements extrêmement puissants qui peuvent traverser dans l'air des dizaines et des centaines de mètres. Donc la décontamination parfaite est impossible.
Et pourtant, certains habitants, comme ceux de Nahara, qui comptent quand même près de 3000 foyers, sont retournés dans leur maison et se réinstallés.
Alors, ce qui se passe justement, c'est que comme la décontamination parfaite est impossible, les autorités japonaises ont changé les niveaux de protection acceptables. Auparavant, on ne devait pas dépasser une certaine dose qui correspond à un certain risque de cancer, c'était 1 millisievert par an. Les autorités japonaises ont monté ce seuil à 20 millisieverts par an, c'est-à-dire qu'elles autorisent finalement que les gens reçoivent des taux de radiation, donc des risques de cancer, 20 fois supérieurs à ce qui était jugé avant inacceptable. Et donc, effectivement, dans ces conditions, les gens sont poussés à revenir dans des territoires mais qui sont contaminés.
Et qui restent dangereux, ces territoires.
Bien sûr, qui présentent toujours des risques, en particulier pour les populations les plus fragiles, les femmes enceintes par exemple. Ce n'est pas normal de pousser des populations qui ont déjà été exposées à des radiations très importantes dans les premières semaines et les premiers mois après la catastrophe. Ce n'est pas normal de pratiquement les pousser à revenir vivre sur des zones qui ne sont pas parfaitement saines.
Monsieur Chareron, vous semblez inquiet. Pourtant, le rapport d'un comité d'experts scientifiques de l'ONU, publié mardi, affirme qu'aucun décès ni cas de cancer en lien direct avec les radiations de cet accident n'est à ce jour enregistré, même si du côté de Tokyo, on affirme quand même qu'il y a un employé de Fukushima qui est décédé des suites de son exposition aux radiations. Qu'est-ce qui explique cette divergence ?
Alors d'abord, permettez-moi de dire que ce rapport de l'UNSCEAR, pour nous, est profondément choquant et il ne rend pas compte de la réalité. Si on prend simplement la question des cancers de la thyroïde, le suivi des cancers de la thyroïde des personnes qui avaient moins de 18 ans et qui vivaient dans la préfecture de Fukushima au moment de la catastrophe, ce suivi montre au contraire une augmentation très importante, 10 fois, 20 fois plus de cancers de la thyroïde et des cancers particulièrement agressifs chez ces personnes. Donc les conclusions de l'UNSCEAR sont profondément choquantes et d'autres scientifiques, d'autres spécialistes de la thyroïde, d'autres experts japonais concluent exactement l'inverse de ce que conclut l'UNSCEAR. Et c'est toujours le même problème quand il s'agit de vraiment étudier sérieusement les conséquences des catastrophes nucléaires. Le même problème s'est posé avec Tchernobyl, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui sont biaisées.
Dans quel intérêt, justement, monsieur Chariron, les experts onusiens décideraient volontairement de passer à côté de la vraie réalité de cet accident?
Alors, la vraie raison, il faudra la leur demander à eux. Ce qui est évident, c'est que, évidemment, par rapport au coût sanitaire, au coût économique que représentent les catastrophes nucléaires, un certain nombre de puissances industrielles, politiques, n'ont pas envie que la population se rende compte réellement de ce que représentent les coûts sanitaires, économiques d'une catastrophe nucléaire. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, vraiment. On a vécu exactement la même chose avec la catastrophe de Tchernobyl. Il faut se rappeler qu'à Tchernobyl, il a fallu 5 ans pour que, grâce à un chercheur indépendant de l'OMS d'ailleurs, on s'aperçoive qu'il y avait un esprit indépendant, lui, bien qu'étant au sein de l'OMS, qu'on s'aperçoit qu'il y avait une épidémie de cancer de la thyroïde chez les jeunes, les personnes exposées jeunes, au Bélarus, en Ukraine et en Russie.
Bruno Chariron, merci beaucoup.
Je vous remercie.
Ingénieur en physique nucléaire, directeur de la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Et avec nos invités, nous allons parler ce soir de la multiplication des cas de violence en milieu jeune en France, notamment en Île-de-France, et examiner avec également nos invités quelles mesures il faut mettre en place pour réduire ces actes. Et ils sont déjà en ligne. Arnaud Gallet, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Monsieur Gallet, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Almami Kanouté, bonsoir. Allô, monsieur Kanouté, qui est consultant en action sociale et culturelle, ancien éducateur spécialisé. Abel Mboï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes auteur du livre « La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale » et également président de la plateforme FR « Tous uniques, tous unis », une plateforme de réflexion et d'action citoyenne. Et nous rappelons que nous avons également en ligne Nassira Guenif Souli Lama. Bonsoir, monsieur Souli Lama.
Oui, bonsoir.
Sociologue, madame. Anthropologue et professeur, c'est madame, pardon. M'en excuse, madame Soulama. Je ne vais pas en rajouter.
Vous pouvez m'appeler madame Guenif, ça ira très bien.
Madame Guenif, d'accord. Je suis désolée aussi d'avoir écorché votre nom, madame Guenif. Vous êtes donc également professeur à l'Université Paris 8. Et nous tenons à souligner que nous avons contacté plusieurs responsables de la majorité qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour des contraintes d'agenda, nous ont-ils signifié, pour participer à cette émission. Je vais d'abord questionner la sociologue que vous êtes, Madame Guenif, sur ce cas qui est le plus récent, une adolescente retrouvée morte dans la Seine à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, le corps jeté dans la Seine par deux de ses camarades quasiment âgés du même âge. C'est un scénario inimaginable lorsqu'on regarde l'âge des auteurs présumés et de la victime aussi.
Oui, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de profondément spectaculaire et de profondément choquant dans ces différentes morts, profondément prématurées, évidemment, et qui pourraient nous porter à considérer que toutes les situations sont équivalentes, qu'elles relèvent toutes des mêmes problématiques, et qu'elle serait en quelque sorte la démonstration d'un phénomène massif, inédit, auquel nous serions confrontés aujourd'hui. Je pense qu'il est, quelle que soit l'horreur que peut nous inspirer, notamment la mort de cette jeune fille récente, il est important de parvenir à remettre en perspective, d'une part du point de vue de l'ancienneté de ces pratiques, malheureusement, et surtout de les différencier, c'est-à-dire que les morts qui surviennent suite à des rixes en bande ne peuvent pas être comparées à ce qui s'est passé à Argenteuil. Donc je pense qu'il faut, sous le pont de l'autoroute A15. Et donc je pense que dans ce cas-là, ce qui a été mis en évidence, c'est Alors, dans quelle mesure est-ce que les deux adolescentes qui connaissaient qui étaient leur copine, hein,
ils fréquentaient le même lycée, les trois.
Et voilà, ils se connaissaient très très depuis au moins depuis la rentrée scolaire et ils se côtoyaient régulièrement. Essayer de comprendre en quoi est-ce que le mobile de leur acte, puisqu'il semble qu'il ait été prémédité, en tout cas pour les éléments qu'on connaît à l'heure où on se parle, qu'est-ce qui a pu susciter une telle volonté de vengeance au point de...
D'en arriver là.
Et effectivement, on dit préméditation, mais est-ce qu'ils avaient l'intention de l'attaquer, enfin de l'intimider et voire même de la terroriser, ou vraiment de la tuer? Là, pour le moment, on n'a pas d'éléments. Par contre, c'est vrai que les intentions derrière nous invitent vraiment à rester prudents et à ne pas massifier ces phénomènes en considérant qu'on est face à une jeunesse qui est complètement déboussolée, qui serait désinhibée et qui n'aurait plus que... qui considérait que le passage à l'acte est parfaitement normal et acceptable.
Merci Madame Guénif. Je vais m'adresser à M. Mboyi qui, vous avez travaillé sur cette question des défis dans les quartiers sensibles. Est-ce qu'on a vu venir cette violence, M. Mboyi? Qu'est-ce qui se passe réellement ces dernières années pour qu'on assiste à ce type d'actes entre les jeunes?
Déjà, premièrement, il y a quelque chose qui est à noter. C'est vrai que lorsque l'on voit un petit peu ce côté buzz en fait, d'un certain nombre de médias qui s'intéressent à la question de la violence des jeunes, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, est-ce qu'il y a un véritable attrait pour le sujet en vue de trouver une solution à une situation dramatique, ou est-ce que l'échéance de l'élection présidentielle ne fait pas en sorte qu'il y ait cet attrait? Parce qu'en réalité, ça fait très longtemps que ces problématiques existent. Je pense que la majorité des acteurs de terrain qui travaillent sur ces questions-là pourront le confirmer. Ça fait vraiment longtemps. La problématique que l'on peut voir aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une certaine précocité, notamment encouragée par les réseaux sociaux, qui est en train de se manifester. C'est-à-dire que des choses qui se manifestaient, entre guillemets, à l'âge de 18, 20 ans, se manifestent dès l'âge de 13, 14 ans, voire par moment avant.
Parce qu'il faut dire que les jeunes aussi ont des téléphones de plus en plus tôt. À 10 ans, déjà, beaucoup ont leur propre téléphone portable.
Tout à fait, mais vous prenez des choses. En plus, on est dans une société où vous avez une partie de la jeunesse, parce qu'il est toujours important de préciser que ce n'est qu'une partie de la jeunesse et que ce n'est pas toute la jeunesse des quartiers populaires qui est concerné par ces phénomènes de violence. Mais quand vous voyez que, par exemple, une statistique toute simple, que plus de 50% des enfants à l'âge de 10 ans ont déjà eu accès au visionnage d'un film pornographique, par exemple, voilà, c'est un des exemples qui montre que nous sommes dans une société où la jeunesse a de plus en plus de mal à se raccrocher à des valeurs. Donc, et puis il y a d'autres choses aussi. Je vais parler d'une façon plus générale par rapport à l'exemple qui a été développé par Madame la sociologue. Nous voyons aussi qu'il y a toujours ce problème du sentiment d'appartenance. Est-il justifié ou pas? C'est une autre question. Mais nous voyons que les canevas fondamentaux de la République sont toujours défaillants malgré les efforts apparents des gouvernements qui se succèdent, à savoir la performance de l'école de la République qui varie encore trop d'un territoire à l'autre, la politique de cloisonnement géographique, certains parleront de ghettoisation,
d'inégalité sociale.
Exactement. Et toujours ce sujet des discriminations à l'embauche qui n'est pas fini malheureusement. Donc il y a ces trois problématiques qui font que vous avez un certain nombre de jeunes, et comme je dis, à tort ou à raison, c'est un autre sujet, mais factuellement vous avez un certain nombre de jeunes qui, à cause de cela, et puis il peut y avoir d'autres sujets, si on peut rajouter les situations familiales, l'instabilité qu'il peut y avoir dans la vie personnelle ou autre, mais il y a un sentiment d'appartenance qui est défaillant auprès d'une partie de notre jeunesse française.
Merci. Monsieur Almami Kanouté, vous avez entendu Monsieur Mboyi, diverses raisons peuvent expliquer la situation, le sentiment d'exclusion, l'abandon des cités en substance, mais il y a aussi certains experts qui pensent que la crise sanitaire qui a poussé à la fermeture des lieux de détente des jeunes a peut-être aussi accentué ce phénomène.
Et bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Kanouté.
Oui, effectivement, la crise que nous subissons tous actuellement accentue malheureusement des réalités auxquelles nous étions déjà confrontés depuis un certain nombre d'années. Et juste avant vous, j'étais avec d'autres journalistes où j'expliquais que ces violences-là ne viennent pas de nulle part. On nous a souvent présenté des projet sur projet, concernant la protection de l'enfance. Et malheureusement, nous constatons que c'est un échec, à vrai dire, sous l'angle des pouvoirs publics, à vouloir mettre en place des dispositifs sur dispositifs. Et on se rend compte que nous faisons machine arrière dans l'évolution des situations. Donc là, pour le cas d'Argenteuil, on a l'impression d'être impuissant face à de telles situations, de tels drames, mais on oublie, nous adultes, de se remettre en question vis-à-vis de notre jeunesse. On ne se pose plus les bonnes questions. Chacun va s'envoyer la balle. C'est à cause des parents, c'est à cause de l'institution, et ainsi de suite. Mais on oublie quelque chose de primordial, c'est que cette jeunesse s'est emparée d'un terrain que nous, adultes, avons déserté. Le point de départ, c'était quoi ? C'était les réseaux sociaux. Une image qui a été diffusée à l'insu de la malheureuse Aïcha. Et c'est monté crescendo. L'établissement se défend d'avoir répondu au signalement une fois les faits avérés. Mais il était déjà trop tard, en fait, dans l'escalade de la violence.
Merci, M. Kanouté. Permettez que M. Gallet, qui est fondateur du collectif Prévenir et Protéger, justement pour répondre à ce point précis que vous venez de mentionner, celui de la prévention, vous dites que voilà, les adultes se rejettent la responsabilité. Mais pour le cas de l'adolescente, M. Gallet, elle était victime de harcèlement. Pourquoi n'a-t-on pas suffisamment pris en compte la question pour empêcher que le drame n'arrive? Monsieur Gallet? Allô, Monsieur Gallet?
Allô?
Oui, Monsieur Gallet, sur le harcèlement dont la victime était, que la victime subissait de ses camarades.
Est-ce que vous m'entendez là?
Oui, on vous entend, allez-y.
Ah, très bien, excusez-moi. Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est-à-dire que la question de la prévention et de la réponse à apporter se pose en fait dans cette situation. Moi déjà, j'ai une forte pensée forcément pour la famille et pour toutes les personnes qui sont confrontées à ce type de situation et de drame atroce qui là aboutit à la mort de cette jeune Aïcha. Et vraiment, j'ai une pensée très forte pour sa famille et pour elle. Enfin voilà, je trouve ça vraiment terrible. Et il y a bien d'autres situations où si on n'arrive pas au décès, on arrive à des situations avec des enfants qui sont dépressifs, qui ne parviennent plus à aller à l'école, etc. Ce qui me semble intéressant dans cette situation, c'est qu'on voit, alors je rejoins, c'est vrai qu'il y a une question de société en fait qu'on doit se poser, on voit que néanmoins l'école a réagi, puisqu'il y a eu quand même des conseils de discipline, etc., là où bien souvent, dans de nombreux cas, il n'y a rien du tout en fait qui s'opère. Et donc déjà, on se dit que c'est d'une certaine manière une bonne chose. Après, la vraie question qui se pose, à mon sens, c'est je pense que les parents, aujourd'hui, sont pleinement démunis aussi sur ce type de situation, et on laisse un peu les choses se faire comme s'il y avait un état d'ordre naturel, en fait, en quelque sorte. Alors que les questions de harcèlement, déjà, sont vieilles comme le monde, si j'ose dire, parce qu'il y a des choses qui sont quand même assez... qui se répètent de temps en temps, et qui se rajoutent aujourd'hui avec quelque chose qui, par contre, est un peu moins vieux, effectivement, ce sont les réseaux sociaux et l'utilisation d'Internet. Et là, les parents aussi sont complètement démunis, puisque leurs enfants parviennent, je dirais, à utiliser ce type de réseau. Et donc, la vraie question pour moi qui est posée aujourd'hui, au-delà de toute la polémique déjà qui peut être faite sur la question, c'est de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on va accompagner les parents, comment est-ce qu'on va les soutenir, que ce soit les parents d'ailleurs de la jeune, mais aussi les parents des auteurs, parce que bien souvent, il y a quelque chose qui est très culpabilisant. On parle de la jeune qui est décédée, effectivement. Moi, je parle également des auteurs.
Merci beaucoup. Merci, M. Gallet. On marque une courte pause. On se retrouve pour poursuivre, évidemment, notre débat.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment expliquer la multiplication des cas de violence parmi les jeunes et quelles réponses? Nous en débattons dans votre émission ce soir sur Africa Radio avec quatre invités. Abel Mboyi, auteur du livre La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale. Almami Kanouté, consultant en action sociale et culturelle, ancien éducateur spécialisé. Arnaud Gallet, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Et Madame Nassira Guenif Soulama, sociologue, anthropologue et professeure à l'Université Paris 8. Comme nous allons réentendre, Madame Guenif, il y a eu, en posant le diagnostic, il y a eu plusieurs causes qui ont été relevées, vous les avez entendues, mais finalement elles sont nombreuses. Et s'il y avait à hiérarchiser aujourd'hui les causes de cette violence parmi les jeunes, comment organiseriez-vous ces causes?
Moi, je me garderais bien de décréter une forme de hiérarchisation qui serait valable et définitive. Je pense que chaque circonstance doit être examinée avec beaucoup de précaution et de prudence. Ce qui semble se dégager, certes, il y a les aspects circonstanciels liés à la pandémie, mais avant le début de la pandémie, il y avait déjà des phénomènes de bande qui avaient été notamment étudiés par Marwan Mohamed dans ses travaux de recherche, et qui montre qu'il y a des formes de structuration au sein de quartiers qui sont ségrégés, dont les modes de vie s'organisent sous le sceau de la limitation, de la ségrégation. Ça a été rappelé, c'est un facteur très important. Je pense qu'il y a des aspects structurels qu'il ne faut pas sous-estimer. Dans beaucoup des cas de rixes entre bandes, il y a une question raciale qui est présente, c'est-à-dire le fait que, qu'on le veuille ou non, il y a une façon structurelle et systémique en France de percevoir les jeunes des quartiers et de les assigner à des stéréotypes et des positions qui très souvent finissent par être...
Vous parleriez de stigmatisation en quelque sorte ?
Oui, il y a des formes de stigmatisation dont leur environnement est l'objet, c'est pas eux seulement, c'est tout leur environnement qui est soumis à ce regard désapprobateur et négatif, et ça dure depuis très longtemps. J'ai commencé à faire des recherches au Bosquet à Montfermeil en 1982-83, c'était déjà présent.
Donc ça mais en même temps, madame, certains experts affirment qu'il y a aussi des jeunes issus de milieux, on va dire, aisés, de plus en plus, qu'on retrouve dans ces actes de violence. Oui, ça veut dire que le profil type n'est plus forcément celui auquel on avait affaire jusque-là.
Et puis, je pense que ce qui change, effectivement, dans l'ordre de la hiérarchisation des phénomènes, il y a un phénomène qui est celui de la déterritorialisation, c'est-à-dire qu'on n'est plus lié seulement à un territoire, on est lié aussi à toute une série d'interactions qui sont en fait virtuelles et qui passent par les réseaux sociaux. Et là, les formes de rencontres qui se nouent, effectivement, elles ne sont plus liées seulement au quartier, elles sont plus dépendantes de conditions matérielles de vie ou de rapports de stigmatisation, mais elles sont liées aussi à une forme d'attractivité, à une forme de fascination, à une volonté peut-être de puissance qui peut s'exercer ou s'affirmer au sein de groupes. Et donc, on est dans la... Je pense que ce qui est important à souligner, c'est le caractère multiforme, en fait, des affiliations, des affinités qui vont faire que des groupes vont, à un moment donné, s'affronter physiquement, à tel point que, on passe du virtuel au réel et à la confrontation physique. Et donc, c'est sans doute cette transition-là qu'il faut parvenir à mesurer et à éviter qu'elle ait des conséquences aussi graves, alors que structurellement, la situation est déjà très préoccupante.
Merci.
Tant au point de vue scolaire qu'au point de vue social.
Monsieur Gallet, vous insistiez aussi tout à l'heure sur la prise en charge, pas seulement des parents, du soutien qu'on doit apporter aux parents qui font face à la violence de leurs enfants, pas seulement des parents des enfants victimes, mais aussi de ces parents dont les enfants posent ces actes.
Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très culpabilisant, où on va renvoyer en fait aux parents. Alors même si, bien entendu, chaque parent est responsable de son enfant, mais être parent en tant que tel, c'est encore une fois pas inné.
Alors, je pense que ma question, justement, je l'ai posée parce que vous dites qu'il faut soutenir les parents. Or, certains des intervenants ont clairement aussi affirmé que les parents ont quelque chose à voir, ont aussi une responsabilité dans ce qui se passe.
Oui, tout à fait. Mais par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on est depuis plusieurs années avec sur des territoires où il y a quand même de moins en moins, par exemple, de prévention spécialisée comme il y avait pu avoir à un moment donné, où en fin de compte, ce sont des territoires où il y a nettement moins d'intervention. Donc on va se retrouver aussi, évidemment, avec des manières d'accompagner qui sont plus du tout à la hauteur des besoins en tant que tels. Et c'est ce qui se passe. Moi, je vois, nous, on a des établissements, par exemple, je gère une association, on a des établissements sur Garges-lès-Gonesse. Un territoire comme Garges-lès-Gonesse où il y a quand même une population qui avoisine les 40% de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Ça ne veut pas dire parce qu'on est pauvre, on est délinquant, bien entendu, mais ça veut dire que néanmoins, on est des fois dans des fonctionnements avec des personnes qui ont des moins de ressources, et ça peut quand même, et on le sait bien, surtout quand il y a une densité assez forte, il peut y avoir quand même, entre guillemets, plus de difficultés. Et bien, sur ce territoire-là, par exemple, il y a nettement moins, je dirais, de prévention. Il y a un club de prévention qui existe, mais il n'y a pas suffisamment, à mon sens, par rapport aux besoins qui peuvent être recensés et aux difficultés qui sont multiples sur ce territoire. Il y a vraiment une désertion due, il y a beaucoup moins de services publics alors qu'il devrait y en avoir beaucoup plus en réalité.
Donc pour vous, clairement, la responsabilité première est celle de la défaillance de l'État dans ces certaines zones.
Je pense qu'elle est collective. Enfin, je dirais pas qu'elle est première, si vous voulez, pour clarifier mon propos. Je dirais qu'elle est collective, c'est la société. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le parent pris en tant que parent, c'est aussi la société au regard de ce qu'on peut faire. Si vous voulez, quand on voit qu'en France, par exemple, vous avez, si on repart du début, des rapports où on vous dit qu'au niveau de la PMI, par exemple, il manque des moyens, donc ça veut dire dès les premiers âges où on peut prévenir de certaines choses, on a déjà des services qui sont à bout de souffle. Et ben, je me posais la question de savoir, une fois que l'enfant grandit, comment ça se passe, alors qu'on n'est pas capable de dépister certaines choses essentielles pour le grandissement de l'enfant.
Merci, Monsieur Gallet. Monsieur Almami Kanouté, comment appréciez-vous l'action des pouvoirs publics jusque-là, depuis qu'on parle de ce phénomène de violence dans en milieu jeune, dans les banlieues? Ce n'est pas nouveau, même si peut-être la médiatisation de plus en plus importante de ces affaires a fini par donner l'impression que voilà, elles sont plus nombreuses qu'elles ne l'étaient il y a quelques années.
Je le précisais tout à l'heure, aujourd'hui, vous savez, on est dans l'ère numérique, l'ère digitale. Donc les diffusions, certes, des vidéos, des informations que les jeunes peuvent s'envoyer les uns les autres, aujourd'hui sont aujourd'hui considérés comme étant les premiers vecteurs qui enclenchent les points de tension. Donc notamment les dernières affaires de Rix, où le point commun donne un point de départ. La mèche s'allumait sur les réseaux sociaux, l'application Snapchat.
Le compte Snapchat, pour le cas de la jeune adolescente, a été piraté par le présumé bourreau.
Pas piraté, en gros, pour la jeune fille, c'est des images d'elle, d'ordre privé, qui auraient été diffusées, justement, sur ce réseau. Et j'expliquais il y a quelques jours à des mères de famille à Chartres que, malgré les charges de travail qu'elles avaient, leur emploi du temps, qu'elles allaient devoir redoubler d'efforts.
Oui, ma question, monsieur Kanouté, c'est davantage de savoir aussi les réponses. Vous qui avez travaillé dans ces quartiers difficiles, est-ce que les réponses apportées par les autorités depuis qu'on parle du phénomène des violences en milieu jeune, est-ce que ce sont des réponses adaptées, appropriées?
C'est des réponses inadaptées. Je vais aller dans le vif du sujet. Lorsque des bandes se confrontent, la réponse des pouvoirs publics, c'est d'envoyer des patrouilles de police, des brigades de police. Donc, on répond par ce phénomène, on donne une réponse répressive. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que la répression va régler les maux de notre société. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir, en réalité, des hommes et des femmes en cohésion réelle avec les espaces qui sont censés représenter. C'est-à-dire qu'ils sont censés représenter des citoyens qui occupent un environnement, et ces environnements-là sont complètement abandonnés. Donc à un moment donné, vous allez avoir un défilé sur les plateaux télévision où
des responsables politiques vont créer des amalgames en parlant de trafic de drogue, alors que le trafic de drogue n'a rien à voir avec les derniers événements.
Tout à fait. C'est d'ailleurs ce que dénonçait sur une chaîne française, en l'occurrence France Info, un sociologue, Laurent Mucchielli. Je vais revenir tout à l'heure peut-être sur certains de ses propos. Monsieur Kanouté, non, c'est Monsieur Kanouté qui vient de parler. Monsieur Mboyi, vous m'entendez? Allô,
oui,
Monsieur Mboyi?
Entends.
Oui, brièvement, hein, très brièvement. Est-ce que vous êtes aussi vous partez dans le sens de Monsieur Kanouté qui estime que ce qui est fait par les pouvoirs publics n'est pas la bonne riposte?
Oui, mais il a tout à fait raison. La problématique des pouvoirs publics, c'est qu'ils sont toujours dans une communication sensationnelle. Donc effectivement, c'est le mot répression qui revient souvent, avec toujours la petite musique sous-entendue que le problème, c'est l'immigration, alors que pas du tout. Et moi, j'aimerais dire aussi une chose. On ne parle pas souvent aussi de certains élus locaux, pas tous, bien entendu, certains élus locaux qui ont joué avec le feu, qui ont acheté la paix sociale pendant des dizaines d'années et qui aujourd'hui vont aussi sur les plateaux télé, vont sur les radios pour pleurer auprès de la jeunesse que eux-mêmes ils ont participé à corrompre pour certains des voyages offerts pour acheter des élections, des pizzas achetées et autre chose que je ne sais quoi encore. On a voulu aussi calmer une partie de la jeunesse pendant des décennies en se disant que en construisant un terrain de foot et de basket et en mettant une salle de jeu, ça calmerait les choses. On n'a pas vraiment cherché à traiter le mal-être humain que certains peuvent ressentir du fait de leur situation. Donc la solution, en réalité, elle est humaine. Aujourd'hui, on peut crier à la répression, on peut crier à l'élaboration de nouvelles lois. C'est pas ça qui va arranger les choses. Il y a déjà un dispositif législatif qui est mis en place. Mais comment fait-on pour accompagner cette jeunesse? Comment fait-on pour accompagner ses parents aussi? Parce que souvent, on aime aussi jeter la pierre sur des parents qui sont dits démissionnaires. Nous, on a mis en place dans plusieurs villes des sessions d'accompagnement de parents qui voient leurs enfants sombrer dans la délinquance, malheureusement. Et il faut écouter, voir des parents qui échangent leurs expériences avec d'autres parents pour qu'ils s'en sortent mieux, peut-être. Vous avez des parents qui font des mea culpa sur peut-être des choses qui ont été loupées ou autres. Il y a besoin de cet accompagnement humain et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Et ça laisse la part belle à des théories fallacieuses sur les plateaux télé, sur les radios, avec, comme je disais tout à l'heure, cette petite musique que ce serait de la faute de l'immigration. Et toujours, ce sujet est monté en buzz, excusez-moi l'expression, avant l'élection présidentielle. L'élection, c'est dans un an. Ça fait des années qu'il y a des rixes entre les bandes. Et malheureusement, ça
donc vous dites que là, ces dernières semaines, si on en a beaucoup parlé, c'est parce qu'on est dans une année préélectorale, il y a une sorte d'instrumentalisation de la part des acteurs politiques de ces actes.
En tout cas, moi, je me pose la question, parce que ça fait des années que beaucoup d'acteurs de terrain alertent sur ces sujets, alertent sur le fait qu'ils sont désarmés sur le terrain pour pouvoir accompagner cette jeunesse, pour pouvoir accompagner ses parents. On oublie beaucoup de rappeler, parce que certains politiques aiment dire qu'il faut taper sur le portefeuille, on oublie de rappeler qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Moi, j'ai été un jeune des quartiers qui a touché à la délinquance. Je peux vous dire qu'à la maison, j'étais très sage. Et que quand j'interviens aujourd'hui auprès de jeunes un petit peu partout, mon frère cadet qui travaille avec moi aujourd'hui, il découvre même des choses que j'ai faites. Donc, en fait, on ne peut pas traiter, dire la jeunesse des quartiers, c'est un bloc où tout le monde pense. Merci. De la même manière et il suffit de mettre de la répression pour régler. Il faut vraiment mettre plus d'humains pour traiter les choses au cas par cas.
Merci beaucoup, Monsieur Abel Mboyi. On va marquer une dernière pause pour conclure tout à l'heure avec, messieurs et dames, des solutions concrètes qu'il faudrait apporter pour pouvoir endiguer et contenir ce phénomène de violence observé ces dernières semaines en milieu jeune.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle réponse appropriée face aux violences parmi les jeunes en France? Et nous en débattons ce soir avec quatre invités. Arnaud Gallet, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger. Almami Kanouté, consultant en action sociale et culturelle, ancien éducateur spécialisé. Abel Mboyi, auteur du livre La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale. Et Nassira Guenif Soulama, elle est sociologue, anthropologue, professeure à l'Université Paris 8. Alors, Madame Guenif, un de vos confrères où sociologue Laurent Mucelli, j'en parlais tout à l'heure, a déclaré que qu'il faut sortir de l'espèce de surréaction et d'immédiateté, et parce que les résultats est toujours le même. Entre autres, il dénonce aussi le fait que à chaque fois qu'il y a des actes de violence, le Premier ministre se rend sur place, le ministre de l'Intérieur, on annonce des renforts. Il exige qu'il faut qu'il y ait un travail de fond. Est-ce que déjà vous partagez son observation, et quel est ce travail de fond qui doit être aujourd'hui fait par les autorités pour qu'on arrive à mettre fin à ces actes de violence au milieu, parmi les jeunes?
Oui, on ne peut qu'être en accord avec ce que dit mon collègue. D'ailleurs, ça rejoint un certain nombre de propos et d'observations qui ont été faites par les personnes qui sont sur votre plateau. C'est-à-dire que je rappelais tout à l'heure que déjà dans les années 80, il y avait régulièrement un émoi face à ce qui était considéré comme la violence des quartiers. Et le diagnostic ayant été erroné dès cette époque, effectivement, nous sommes aujourd'hui face à près d'un demi-siècle d'errement, d'atermoiement, d'hésitation et surtout d'exploitation de la situation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment toute une part de la jeunesse française qui a été, et maintenant on en est presque à la troisième génération, qui a été considérée comme étant dangereuse et donc véritablement qui devait être domestiquée, qui devait être tenue le plus serré possible. Et on est toujours passé à côté de ce qui existait à l'époque, les clubs de prévention. Mais en fait, ces méthodes-là, ces manières de faire n'ont jamais été affinées. Elles n'ont pas été prises au sérieux. Elles demandent énormément de professionnalisme, elles demandent de la patience, elles demandent un travail en dentelle.
Ce sont des réponses sur la durée, sur le long terme,
oui,
qu'il faut.
Mais ça veut dire que ces réponses-là, elles n'ont jamais été adoptées, puisque en fait, le tournant répressif de l'État français, il date de la fin des années 80. Il y a eu quelques tentatives pour maintenir des formes de travail de proximité, mais en fait, ça a toujours été contrecarré par une sorte d'obsession du fait qu'il faut être répressif, il faut donc voilà, il faut tenir en joue, il faut maintenir l'ordre coûte que coûte, alors que la jeunesse d'un pays, quel qu'il soit, n'est pas là pour être
réprimée,
de manière exploitée. D'une part, réprimée, elle doit être éduquée quand même, ça me semble être le moins qu'on puisse lui accorder.
Merci.
C'est son droit, c'est un droit fondamental. Or, ce droit a toujours été bafoué au bénéfice d'une politique de répression spectaculaire dont on sait qu'à chaque fois, effectivement, elle se réinvite au moment des élections. Donc d'un point de vue de l'éducatrice que je suis ou de l'enseignante, c'est un échec complet et c'est une comment dire, c'est un choix délibéré. Peut-être qu'il faudrait que les personnes assument le fait qu'elles ont choisi de sacrifier une partie de la jeunesse française à des objectifs électoraux.
Merci beaucoup, Madame Gallet. On va aller très vite, messieurs, s'il vous plaît. Il nous reste à peu près 5 minutes. Je souhaite que chacun propose son idée pour qu'on arrive à sortir de cette violence en milieu jeune. Monsieur Kanouté, Madame Guénif le disait, la réponse répressive semble avoir montré ses limites. Elle a échoué. Est-ce que vous misez, vous aussi, sur l'éducation, l'encadrement, le soutien aux jeunes ?
Oui, je mise à fond dans l'éducation populaire, je tiens à préciser, parce que je suis un enfant de l'éducation populaire. Moi j'ai eu des adultes qui m'ont entouré, qui m'ont encadré, qui m'ont éduqué, au-delà du cadre familial, et c'est ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Et c'est ce que les politiques ont réussi à détruire avec leur... j'ai envie de dire, leur politique destructrice.
Est-ce que ce n'est pas un peu facile aussi de taper sur les politiques, alors que vous-même, vous venez d'admettre que les réseaux sociaux sont aussi, en quelque sorte, responsables de multiplication des cas de violence?
Les responsabilités sont partagées, ça, je dois le reconnaître, mais les responsables de cette situation sont les politiques, parce que pour moi, nous avons encore affaire à des hommes et des femmes qui ne connaissent pas leur territoire, qui ne maîtrisent pas leur territoire, et nous sommes laissés pour compte. On se débrouille. Aujourd'hui, vous savez, un bon nombre de citoyens n'attendent plus après les pouvoirs publics pour faire de la prévention et pour régler leurs problèmes.
Merci.
Et j'irai même au-delà. Aujourd'hui, pour régler certaines situations complexes dans nos quartiers, nous n'avons plus besoin de faire appel police-secours, pour vous dire.
Merci beaucoup. Déjà que dans certaines localités, il n'y a même pas encore de police municipale. Voilà. Monsieur Gallet, en quelques mots, comment faire aujourd'hui, puisque la répression n'a pas fonctionné, pour qu'il y ait moins de violence en milieu jeune?
Écoutez, moi, je rejoins ce qui a été dit préalablement. Moi aussi, je suis un enfant de l'éducation populaire. Moi, je suis convaincu qu'avec plus de moyens autour de la prévention spécialisée, c'est-à-dire qui nous permet de prévenir aussi et d'accompagner au plus près, et non pas d'être dans un rapport autoritaire, je dirais également avec les jeunes, et de quelque chose qui renvoie finalement quelque chose de cet ordre-là au regard de l'uniforme, etc. Moi, je suis convaincu qu'on arrivera aussi à vivre dans une société peut-être un peu plus apaisée. Alors, c'est peut-être un peu idéaliste de le dire, mais je pense qu'il y a... Et si on fait le parallèle, hein, je me permettais, je réfléchissais avant de prendre la parole, mais avec notamment la question des violences sexuelles, là aussi, on voit bien que y a un rapport de domination, etc. On est dans une société où ce rapport de domination-là, notamment la société avec une domination masculine, c'est un rapport de force. Et je pense qu'il faut aussi qu'on repose les choses de manière globale. Et juste, peut-être, pardon, est-ce qu'on a, j'arrête là-dessus. Et au niveau du harcèlement scolaire, pour moi, c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a notamment, je pense à la maison de Marion. Ça a été fait par une maman là qui a perdu sa fille Marion, qui s'est suicidée, qui était victime de harcèlement scolaire. Et je pense qu'il y a des belles choses à faire, mais qui là aussi nécessitent des moyens. Et je pense que c'est important pour soutenir tous les parents et les enfants.
Merci. On va terminer avec vous, Monsieur Abel Mbouyi. J'ai entendu un responsable politique socialiste convoqué, d'ailleurs un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, et il disait qu'il faut un effort collectif, des solutions communes pour endiguer cette violence.
Tout à fait, au niveau des citations, tout a été dit, et je vais être vraiment très court en prenant une image, en vous citant une citation. Quand il y a un feu, le feu on l'éteint avec de l'eau, tout simplement. L'eau c'est la vie. Et pour la citation, moi je citerai Martin Luther King qui a dit « Nous avons besoin de leaders qui ne sont pas amoureux de l'argent mais de la justice, qui ne sont pas amoureux de la publicité mais de l'humanité. »
Merci beaucoup. Comme vous avez laissé quelques secondes, on va dire que Madame Arnaud Gallet, est-ce que vous pensez que cette fois-ci, cet appel que lancent les experts de ce domaine, c'est-à-dire la violence en milieu jeune, que vous êtes, peut être entendu, alors que vous-même vous l'avez dit, on est en année préélectorale?
Attendez, je n'ai pas compris. Parce que
non, j'ai demandé à Madame Guénif, est-ce que vous pensez que cette fois, le message va passer au niveau des politiques? Est-ce qu'ils vont enfin écouter la voix que leur proposent les spécialistes du domaine que vous êtes, c'est-à-dire l'éducation, moins de répression?
Je crains fort qu'il ne soit complètement sourd à ces exhortations. Tout ce qui se passe actuellement du point de vue des politiques répressives, et là je pense que ce n'est pas que en direction de la jeunesse des quartiers populaires, c'est de manière globale. Hein, la loi sécurité globale, la loi séparatisme, ça décline un certain ton. Et le ton est au durcissement, le ton est à la suspicion, le ton est... Et à la répression, je ne vois pas en quoi est-ce qu'ils seraient capables de changer cela, surtout si ça leur apporte, s'ils pensent malheureusement que ça leur apporte des voix.
Merci beaucoup, Madame Guénif. Et je rappelle, pour terminer, que selon l'Organisation mondiale de la santé, l'homicide est la quatrième cause de décès chez les jeunes âgés de 10 à 29 ans. Dans 83% des cas, les victimes sont de sexe masculin. Et également, dans 83% des cas, les victimes sont également, les coupables, pardon, sont également de sexe masculin. Merci à vous, Madame Nassira Guénif Soulama, sociologue, anthropologue, Arnaud Gallet, cofondateur du collectif Prévenir et Protéger, Almami Kanouté, consultant en action sociale et culturelle, ancien éducateur spécialisé, et à vous, Abel Mbouyi, auteur du livre La jeunesse des quartiers face aux défis du patriotisme et de la cohésion sociale, également président de la plateforme Tous Uniques, Tous Unis, une plateforme de réflexion et action citoyenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonsoir.